tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%, le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, on va parler du complément le plus étudié, on va parler de la créatine. Est-ce que la créatine est bon pour la santé, la performance? Il y a beaucoup de choses à dire, elle est aussi critiquée, certains parlent même de dopage. Donc on va essayer de voir justement dans cet épisode le vrai et le faux sur le sujet. On vous donnera les recommandations, dans quel cas consommer de la créatine, sous quelle forme aussi, car il y a un vrai débat dessus. Et pour ça, on a la chance de recevoir Edouard. Comment ça va, Edouard?
Ah, super, les gars.
Ouais, en forme?
Ouais, mais écoute, c'est plutôt moi qui vous reçois d'ailleurs aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est au studio de Nutri&Co et toujours accompagné de Pierre, de la team 1000%. Comment ça va?
Ouais, ça va nickel. Salut à tout le monde. Bah, de retour sur Aix pour tourner une masterclass cette fois-ci sur la créatine.
Ça va être intéressant. Après, voilà, on va parler aussi avec Edouard, qui donc est fondateur de la marque Nutri&Co. On avait déjà fait des épisodes avec lui. D'ailleurs, on vous mettra tout en description, où justement, on parlait de la transparence des produits, la qualité des produits. Donc aujourd'hui, on va faire la même chose, hein. Le but, ça va pas être de vous faire consommer de la créatine, mais de vous expliquer dans quel cas ça peut être judicieux, si bien sûr ça l'est, et surtout comment la consommer, est-ce qu'il faut faire des cures, pas des cures. Donc Edouard, je te laisse peut-être te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas.
Déjà ravi de vous accueillir les gars, vous
merci.
Avez vu qu'on a investi.
Bah ouais, c'est bien, hein.
On est confort.
Bah ouais. Ouais. Le canapé est bien, il faut encore le faire, il faut qu'on revienne plusieurs fois pour le faire un petit peu plus.
Ah ouais, ouais. Parce que toi t'es en hauteur là, tu présides, ouais, là, t'es bien là.
Tu sais, j'ai un déficit de taille, c'est pour ça que je m'agrandis.
T'as vu, on te très bien ici.
C'est ça, merci.
Mais non, bah moi donc Edouard Farnas, on a déjà échangé ensemble les gars, donc... Je pense que vos auditeurs me connaissent peut-être un petit peu. Je suis le fondateur de Nutri&Co. Donc Nutri&Co, c'est une entreprise qui développe des compléments alimentaires depuis 2017, principalement sur trois axes, santé, sport et beauté. En fait, on est en train de tout regrouper sous l'axe de la longévité en réalité. Voilà, voilà un petit peu la démarche. Et donc moi, mon objectif, je suis avant tout un grand passionné de nutrition. Et c'est à travers le type de fenêtre d'expression que vous m'offrez aujourd'hui, bah, de pouvoir démontrer qu'on n'est pas juste des marchands et qu'on essaye de faire le travail correctement. Et surtout de crédibiliser cette industrie qui a un déficit de confiance aujourd'hui. Et c'est grâce à vous, grâce à ce type de podcast, bah, qu'on peut montrer que, on l'espère en tout cas, il y a des gens sérieux et qui font le travail correctement.
Ouais, ben merci beaucoup de prendre le temps et ça nous tenait aussi à cœur de parler de la créatine. On a regardé, il n'y avait pas beaucoup de contenu, hein. Il y avait certaines vidéos, mais vraiment, il n'y avait pas un vrai podcast pendant presque une heure comme on va le faire aujourd'hui pour rentrer en profondeur et comprendre dans quel cas le prendre et aussi dans quel cas ne pas le prendre. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est d'avoir vraiment ton avis dessus. Mais déjà, la créatine, c'est quoi? Est-ce que tu pourrais expliquer pour nos auditeurs qui peut-être découvrent ça? Parce que c'est vrai qu'il y a une image négative encore de la... Peut-être pas pour nous qui sommes dans le milieu du sport, mais pour le grand public, créatine, ça peut même paraître dopage pour certains.
Ouais, alors peut-être qu'on va démarrer par ça, justement, sur la question du dopage. En fait, il faut comprendre l'histoire de la créatine. La créatine, c'est un complément alimentaire qui s'est démocratisé avant tout dans les salles de sport muscu et qui donc a été très attaché à un monde de prise de masse, on va dire, très forte, où on sait qu'il y a du dopage. Et où, on va dire, pour le néophyte, positionner la frontière entre ce qui est du dopage et ce qui ne l'est pas n'est pas forcément évident. Il faut se souvenir que dans les années 90, la whey, pour l'homme de la rue, ça pouvait être aussi considéré comme du dopage. Il y a eu aussi l'ANSES, donc l'instance de santé en France, qui a émis une réserve dans les années 2000, où en fait, elle ne comprenait pas bien la mécanistique, elle n'avait pas récupéré suffisamment de travaux cliniques pour donner un avis favorable. Donc c'est le principe de précaution qui a été adapté aussi et qui a été, on va dire, promu, communiqué. Et donc la créatine a malheureusement souffert un petit peu de cette image un peu de dopage, ou en tout cas principe de prévention, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dérivé d'acide aminé qu'on produit naturellement. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 90% de la créatine qui est stockée dans nos muscles, un peu moins de 10% dans le cerveau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, on va dire, pour l'homme de la rue, je vais reprendre l'homme de la rue, la créatine dans les muscles, on en stocke, enfin, on a des stocks de créatine qui représentent 70% du total de stock possible. Voilà. Et en fait, la supplémentation, nous permet d'aller saturer ces stocks et de monter jusqu'à 100%. Voilà. Et donc, à quoi elle sert? En fait, on est, donc vous connaissez les trois filières de production énergétique dans les muscles. Et donc, elle va servir à la première, okay, l'anaérobie alactique. Donc, c'est la filière la plus courte, plutôt orientée sur la force, l'intensité, la puissance. Et elle va permettre de recycler l'énergie dans les muscles, donc en l'occurrence l'ATP, qui devient de l'ADP après. Donc, c'est adénosine triphosphate, elle devient adénosine diphosphate. Donc, elle perd un phosphate. En fait, le muscle, quand il bouge, il a besoin de phosphate. Et la créatine, en fait, quand elle est stockée dans nos muscles, elle a attaché à elle un phosphate qu'elle donne en fait à l'ADP pour redevenir ATP. Voilà. Et ça permet, eh ben, donc en fait sur l'anaérobie alactique, on est à peu près sur une durée de 10 secondes.
Ouais,
On va,
c'est le 100 mètres finalement.
voilà, et on va pouvoir grimper jusqu'à 12, 15 secondes. Donc c'est quand même pas négligeable. Voilà. Voilà pour un topo global.
Merci beaucoup Edouard. Et juste pour rebondir sur le dopage, c'était Vincent Foulonneau, il me semble, on avait fait un épisode dessus d'ailleurs, on vous mettra ça en description, qui disait, si je me trompe pas, que la créatine était utilisée pour masquer en fait les produits dopants à l'époque. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait des taux importants chez les personnes dopées, parce qu'ils s'en servaient pour masquer le reste. Et c'est pour ça qu'il y a cette image aussi qui est restée
Ah, peut-être.
dans le grand public.
Mais c'est surtout que dans tous les milieux de force, d'haltérophilie, de lutte, ils consommaient aussi de la whey, de la créatine, plus les produits dopants. Et donc on met tout un peu dans le même package. Il y a aussi beaucoup de problèmes de contamination de produits classiques accessibles sur le marché par des contaminants dopants. Bah, typiquement la whey et la créatine qui ont quand même souvent des problématiques. C'est surtout sur le marché américain où il y a des problématiques de contamination et il y a des athlètes qui se font piéger, hein, où ils achètent de la whey quand ils sont en voyage et ils se font attraper par les contrôles antidopage parce que
Ouais, ça c'est dangereux.
les produits sont boostés en fait et sont très peu contrôlés. J'ai l'impression que les normes américaines et européennes, c'est pas les mêmes.
Oui, alors après, ça va dépendre aussi du niveau d'éducation de la personne qui va consommer. C'est sûr que quand tu es en voyage, tu es sportif de haut niveau, etc., tu as oublié ta whey ou ta
Tu peux pas
créatine,
te permettre.
ah, tu prends un peu ce qui passe, mais il y a déjà une erreur en amont, on va pas se mentir. Aujourd'hui, aux États-Unis, les États-Unis, c'est un marché qui est beaucoup plus en avance sur le nôtre. Les associations de consommateurs là-bas sont pas concentrées sur le fait de critiquer l'efficacité des produits, mais plus d'évaluer si dans les produits, les teneurs affichées se retrouvent, etc. Donc en fait, il doit y avoir à peu près 4-5 associations de consommateurs aux États-Unis qui ont pour objectif d'étudier sans arrêt, d'analyser ce qu'il y a dans les produits. Donc on est sur un marché qui est quand même beaucoup plus en avance. Chez nous, il n'y a pas encore, on va dire, de façon régulière, d'organismes côté consommateur qui font ce travail-là. Alors, t'as de temps en temps 60 millions de consos qui va te sortir un truc, qui a analysé 3 oméga-3, mais déjà les protocoles sont rarement de qualité. Et ce n'est pas quelque chose qui est fait sur l'ensemble des marques pour essayer d'apporter, on va dire, de la lisibilité. Donc les US, c'est quand même un marché qui est en moyenne beaucoup plus en avance que le nôtre.
L'équipe 2000% prend soin de sa santé et c'est avec Lucie. C'est clairement un outil qui est à 1000% aligné avec nos visions. Comprendre son corps en profondeur pour mieux agir au quotidien. Avec Lucie, tu as un accès à une analyse ultra complète de ta santé. Plus de 110 biomarqueurs analysés répartis sur 11 grands systèmes du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une prise de sang, ils vont plus loin avec analyse urinaire, salivaire pour donner une vision vraiment globale. Il y a aussi une intelligence artificielle qui croise tes résultats, ton questionnaire de santé et même tes objets connectés. Et derrière, tu peux prendre rendez-vous avec un médecin si tu veux aller plus loin. Bref, un outil pour comprendre, optimiser, suivre ta santé dans le temps. Si ça t'intéresse, tu peux aller directement sur leur site lucis.life et en plus de ça, tu bénéficies d'un code de réduction avec le code podcast1000. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et retour au podcast.
C'est vrai qu'on parle de complémentation peut-être en créatine, hein, on va l'évoquer, mais est-ce que naturellement dans l'alimentation, on a fait un peu nos recherches, est-ce qu'on peut le retrouver de la créatine dans l'alimentation? Parce que c'est vrai que nous, à 1000%, c'est toujours ce qu'on prône, d'abord une alimentation de qualité et après, derrière, venir se complémenter s'il y a des besoins.
Ouais.
Est-ce qu'on peut retrouver justement cette créatine dans des aliments?
Mais surtout, juste avant ça, est-ce qu'on ne crée pas le besoin avec l'industrie? C'était aussi ça que je voulais qu'on évoque ensemble. C'est toujours ce marché du complément alimentaire. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ou est-ce qu'on le trouve naturellement? Est-ce que ce n'est pas surfait, cette complémentation, finalement?
Bah, typiquement, là, on peut parler. Alors, encore une fois, chaque complément a ses spécificités. Mais si on parle de la créatine aujourd'hui, on comprend donc qu'il y a 70% de nos, on a 70% de nos stocks dans nos muscles et qu'avec la supplémentation, on peut aller chercher 100%. Et donc, on peut passer de 10 secondes d'anaérobie à lactique à 15 secondes. Donc là, il y a quand même vraiment quelque chose qui a été mesuré, qui est percutant. Et donc, pour la créatine, il va y avoir un besoin quand même. En tout cas, ça peut être cohérent pour toutes les personnes, notamment qui sont sur des exercices physiques de type résistance, que ce soit des personnes sur les sports de force, que ce soit, moi c'est ce que je prône maintenant majoritairement, des personnes qui à partir de 45 ans, 50 ans souhaitent lutter contre la sarcopénie, hommes et femmes, donc la fonte inéluctable de la masse musculaire, avec justement des exercices de résistance, ça va être intéressant. Parce que les deux reps que tu vas aller chercher en plus, tu détruis un peu plus de fibres musculaires, ton anabolisme va être un peu plus fort, tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est entre guillemets plus facile, j'aime pas ce mot, mais tu as plus de résultats. Voilà. Donc je pense que sur la créatine, on est très clairement sur un produit qui est d'après moi bien documenté, ou en tout cas dans la sphère nutraceutique, qui fait partie des plus documentés. Pour ce qui est de la performance physique, c'est le complément alimentaire, tu l'as dit en introduction, le plus étudié. Ce n'est pas le complément alimentaire le plus étudié quand tu prends toutes les sphères du monde de la nutraceutique. Les oméga-3 sont devant, très clairement. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que sur des compléments alimentaires aussi type magnésium ou vitamine D, il y aurait probablement match. Mais en ce qui concerne le sport, la créatine est largement devant. Et surtout, il y a un très gros consensus, on en parlera quand on détaillera 2-3 études ou 2-3 prises de position aussi de revue à comité de lecture de référence. Mais pour moi, c'est indiscutable. Après, ce qui est problématique, c'est que souvent dans notre industrie, parce que derrière, il y a donc cette histoire aussi un peu de conflit d'intérêts, ce qui est problématique dans cette industrie, c'est que parfois, il y a une mode qui se lance. On pourrait parler, par exemple, du shilajite. Le shilajite, c'est vrai que d'un point de vue scientifique, il n'y a pas un matériel qui est fantastique. On ne va pas se mentir. Nous, très, très clairement, on ne s'est pas mis dessus. Parce que ça ne m'a pas plu. On a étudié le truc parce qu'on l'a vu sur nos tableaux de bord un petit peu popés. Donc, on s'est dit, bon, il y a peut-être un truc à faire. Et quand on a étudié scientifiquement si c'était intéressant, on s'est dit, bon, il n'y a quand même vraiment pas grand-chose dessus. Donc, on va attendre que la science avance sur ce truc-là et on verra plus tard. Et donc, en fait, c'est un petit peu ce qui est compliqué dans notre industrie. C'est de se dire, quel est, pour chaque ingrédient, pour chaque produit, la véracité scientifique qui est derrière. Et je pense que parfois, il y a effectivement des opportunistes, on ne va pas se mentir, qui n'ont rien à foutre de la science, qui sont là pour faire un biftard et qui se lancent sur des verticales qui sont peu documentées cliniquement. Et ça fait du mal à notre industrie. Voilà.
Parce que tu vas t'exposer, toi, de sortir un produit qui n'est pas documenté et dans ta gamme...
Nous, on ne le fait pas parce que, bon, vous le savez, parce qu'on bosse ensemble maintenant depuis un petit moment, mais on essaie quand même de promouvoir des produits qui sont, on va dire, cadrés par la science. Après... Chaque produit, chaque ingrédient a ses spécificités. Il y en a qui ont des problématiques d'absorption, mais une fois qu'ils sont absorbés, ça fonctionne très bien. Il y en a qui s'absorbent très bien, mais en revanche, on ne sait pas trop où ils vont ensuite dans l'organisme et si ça fonctionne. Donc, vous voyez, sur chaque thème, il va y avoir en fait une compréhension différente, avoir une approche un peu différente. Voilà.
Mais c'est une complexité d'individualisation, parce que comme tu parles, ça dépend des gens et ça dépend pour chaque personne de ce qu'il fait et donc l'utilité qu'il pourrait avoir pour chaque micro-élément.
Exactement.
Je vous ramène vers les podcasts qu'on avait fait sur le magnésium avec Edouard. On avait fait un gros là-dessus, sur les oméga-3 et sur la whey et le collagène. Donc, il y a matière à écouter pour ceux que ça intéresse. Donc, on ne parlera pas de ces éléments-là aujourd'hui. Ne le mettez pas en commentaire, s'il vous plaît. Il y a quand même des épisodes d'une heure. Et vous avez de quoi écouter.
Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous prenez de la créatine ou pas et dans quel effet. Ça sera hyper intéressant de le savoir. Et pour revenir donc à l'alimentation, dans oui. quels aliments on peut trouver de la créatine et est-ce qu'en quantité suffisante et combien il faut de créatine par jour?
Alors, en quantité suffisante, en fait, déjà, il n'y a pas de norme de santé qui t'oblige à avoir un certain apport de créatine. Donc, en fait, le suffisant ou le pas suffisant, c'est vrai qu'il n'existe pas. Là, c'est toi, est-ce que tu veux optimiser tes stocks pour optimiser ta séance. Mais ce n'est pas une problématique, si tu... en tout cas sur la partie sport de résistance, ce n'est pas une problématique, si tu veux, de apport de référence, nutriments essentiels, etc. Bon, cela dit, donc je vous le disais, il y a 70% des stocks de créatine qui sont complets dans votre... enfin, qui sont occupés dans vos muscles. On peut aller en chercher un petit peu dans l'alimentation, mais pas beaucoup. Donc principalement dans tout ce qui est protéines animales. Donc principalement viande et poisson, mais à titre d'exemple, un steak de 100 grammes, ça va apporter 0,5 g de créatine. C'est quand même assez léger. Voilà. Mmh. Sachant que quand on est sur de la créatine monohydrate, il faut entre 3,3 et 5 grammes, suivant les études cliniques. Aujourd'hui, le consensus, il est quand même plutôt autour des 3,3. On pourra en reparler tout à l'heure. Il y a aussi une notion de grammes par kilo de poids de corps, mais on étudiera ça, je pense, peut-être dans une question qui suivra. Donc, on voit bien que ce n'est pas avec l'alimentation qu'on va venir saturer, en fait, ces stocks.
Il faudrait manger presque un kilo de bœuf pour avoir ces stocks, en gros. Ce serait presque ça. Si on exagère, si on va jusqu'au bout de la barrière de 5 grammes,
600,
ça serait ça.
Ce serait 600 grammes de bœuf, quoi. Tu vois, ça ferait beaucoup, quoi.
Ce serait énorme. Et du coup, tu la consommerais quand? Tu conseilles aux gens de tout le temps optimiser ces stocks ou de les optimiser justement que à proximité de l'entraînement?
Alors, il y a, c'est vrai qu'il y a une petite, on va dire, un faisceau d'indices scientifiques qui tendrait à prouver que quand on prend sa créatine juste après l'entraînement, ça optimise l'absorption des glucides, donc la recharge glucidique. Donc, ça peut être intéressant parce que ça accélère la récupération. Mais moi, j'ai plutôt tendance à dire, et on l'avait déjà dit dans les anciens podcasts, le mieux, c'est d'instaurer des routines. Et donc, finalement, peu importe quand est-ce que tu la prends, le mieux, c'est de la prendre de façon régulière tous les jours. Voilà. D'ailleurs, il y a un débat aussi sur le fait de faire ce qu'on appelle une charge ou des apports réguliers. Il a été démontré que les charges, c'est extrêmement contraignant parce qu'il faut prendre donc 20 grammes de créatine par jour. On ne peut pas la prendre en une fois parce que d'un point de vue digestif, c'est la catastrophe. Tu passes ta journée aux toilettes après. Je pense que personne n'a envie de ça. Donc, tu es obligé de découper, okay. Ce qui n'est pas forcément évident. Il y a aussi une problématique, c'est que quand tu absorbes 20 grammes par jour, même si tu découpes en 4 prises, bah, tu vas tellement saturer tes canaux d'absorption de la créatine qu'il y en a une partie qui va partir, si tu veux, aux toilettes. Il y a un autre effet aussi qui est pas forcément bon, c'est que quand tu te charges comme ça, donc sur une semaine à 20 grammes par jour, ton taux de créatinine, qui est le métabolite, c'est-à-dire le déchet de la créatine, va augmenter. Et si tu fais une prise de sang à ce moment-là et que tu tombes sur un médecin qui n'est pas au courant que tu fais ta prise de charge et tout, tu vas taper au-dessus de la borne créatinine du labo. Là, il va te dire, c'est la panique. Ouais, hein, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire, il vaut mieux un apport régulier à 3-4 grammes par jour. Au bout d'à peu près, ça dépend de ta corpulence, mais au bout d'à peu près 25 jours, tu vas saturer tes stocks. Donc, tu vas être à 100% de tes stocks occupés. Et à partir de là, tu entretiens avec 3 grammes par jour pour garder, si tu veux, l'intensité, enfin, les 100% de capacité de stockage occupée.
Pour le timing de prise, il me semble qu'il y avait quand même cette hypoglycémie silencieuse qu'il pouvait y avoir. Donc faites attention, des fois il y a des pré-workouts ou des boosters où il y a de la créatine dedans. Et ça peut créer une petite hypoglycémie. Et donc de faire une hypoglycémie pendant l'effort, ça c'est jamais quelque chose d'intéressant. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt à ce que ce soit avant l'effort, il faut plutôt, comme tu disais, lisser. En fait, il faut que ce soit sur ta semaine. Le but, c'est de saturer les récepteurs. Donc, il y a cette notion-là. Et après, j'avais écouté Huberman Lab qui conseillait plutôt sur le calcul par rapport au poids. Peut-être on pourra en discuter. Il conseillait 0,1 g par kilo de poids de corps par jour. Donc, par exemple, pour, on prend un homme de 80 kg, ça faisait 8 grammes par jour.
Ouais.
Comment tu te positionnes là-dessus ?
Moi, je ne partage pas cet avis-là.
Ok.
Pour une raison simple, c'est qu'en fait, quand tu regardes le matériel scientifique qui fait autorité aujourd'hui, notamment, on va citer Alan Aragon, qui est le monsieur créatine, qui, on va dire, chapeaute quand même tous les grands papiers, discute avec toutes les équipes qui rédigent les papiers les plus prestigieux sur ce thème-là. Il a très clairement participé à la baisse de l'apport conseillé pour avoir des résultats. Alors après, il y a une question de rapidité de saturation des stocks. Donc c'est sûr que si tu es 10 jours avant ta compète et que tu n'as pas le choix et qu'on te dit la créatine, ça a changé ta vie, bon bah là, effectivement, ça peut être intéressant de monter. Mais lui, globalement, ce qu'il dit, c'est que pour une personne qui fait plus de 80 kg, on peut monter à 5 grammes par jour. Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que tu sois à 3 grammes, à 5 grammes, à 7 grammes, ça va se jouer entre 20 et 30 jours ta saturation de stock. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que plus on ingère de créatine en une fois, moins elle s'absorbe. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a aussi une notion de rapport absorption-prix. Tu vois ce que je veux dire? Et alors après, je n'ai pas étudié si une dose de 8 grammes en une fois, quel était le pourcentage qui partait à la poubelle, mais il est sans doute beaucoup plus élevé que quand tu prends 3 grammes.
Voilà. Mais il sera forcément individu dépendant.
Bien sûr,
il y a des gens, après. Il y a des super répondeurs, il y en a d'autres qui répondent moins bien. Et puis ça peut potentiellement augmenter le risque d'inconfort digestif.
C'est ça. Mais après, il y a aussi une chose, c'est que déjà sur la partie, par exemple, protéines, on a des calculs comme ça à faire, du style combien de protéines par kilo de poids de corps. Tu dois aussi le faire potentiellement sur les glucides. Je ne suis pas forcément adepte de tomber dans la mathématique poussée comme ça, au kilo de poids de corps près pour chaque ingrédient. Surtout quand on a un matériel scientifique qui te dit déjà qu'à 3-4 grammes, potentiellement 5 grammes par jour, tu obtiendras tes résultats, des résultats identiques à 5 jours près, si tu veux, dans la saturation de ton espace de stockage. Bon, je pense qu'on n'est pas à ça près, quoi.
Et après, peu importe qu'on ait une activité physique, par exemple, le jour où je vais avoir une activité physique, je n'ai pas forcément augmenté mes stocks, il n'y a pas forcément d'intérêt s'ils sont déjà remplis.
Non. Et c'est du long cours.
Voilà, il faut vraiment voir ça sur le long terme.
C'est pas du ponctuel comme ça.
Et donc, faire une cure, ça aurait pour toi, à part si on n'en prend pas et que vraiment on veut relancer un petit peu, il y aurait pas d'intérêt. Parce qu'il y a encore ça qui est ancré, cette cure. Et même, je te pose une question complémentaire, c'est est-ce que tu conseilles à un moment d'arrêter quand même pendant peut-être un mois de prendre de la créatine, ou vraiment tout au long de l'année, tu conseillerais d'en prendre?
Ça dépend encore une fois des profils. Si par exemple ton objectif c'est vraiment de la prise de masse, que tu vas à la salle tous les jours, etc., et que tu es donc dans une performance de long terme, voilà, ça va être intéressant d'en prendre tous les jours. Si en revanche tu prépares par exemple un trail de 30 km où tu sais qu'il y a des moments où tu vas avoir des dénivelés un peu sévères, il faudra mettre des coups de cul, tu as le sprint final, etc., bah, tu peux te charger, on va dire, un gros mois avant ta compétition.
Te charger en créatine.
Hein. Ouais, ah oui, c'est vrai que... Ouais, charger les stocks, quoi.
Ouais, recharger les stocks, bien sûr.
Tu vois, à mon avis, le métamant, parce que le métalangage peut prêter à confusion aussi, en fait.
Non, mais t'inquiète, ils ont bien compris.
Non, mais je sais.
Mais t'es déjà extrait en short.
Ouais.
Ah, tu vas déjà me casser.
Ça y est, tout le monde est chargé. Et moi, je pensais aussi à l'Aerox, tu vois. Ouais,
l'Aerox
aussi. Ça peut être intéressant pour l'Aerox, je pense.
Bien sûr. Dans beaucoup de sports, c'est intéressant. Mais après, voilà, typiquement, tu vois, nous, ici, on a pas mal de personnes qui disent, je vais préparer telle compétition sportive. Et après, les mecs, pendant 6 mois, ils soufflent, ils redescendent. Alors, ils gardent quand même un niveau d'activité physique, mais sans véritables objectifs, etc. Là, il n'y a pas forcément besoin, si tu n'as pas d'objectif majeur, de prendre de la créatine si tu as moins de 45-50 ans et que tu ne veux pas lutter contre la sarcopénie. Si tu es dans une lutte contre la sarcopénie, là, en revanche, ça redevient quelque chose, pour moi, d'intéressant et de prendre de façon régulière. Voilà. Donc après, c'est un peu en fonction de tes objectifs, de là où tu en es dans la vie. Est-ce que c'est intéressant de la prendre en cure? Oui, tu vois, pour un mec qui prépare une compète et qui après s'affaisse et veut pas forcément, réduit, il ne veut pas forcément dépenser trop d'argent dans les compléments au quotidien. Et en revanche, prise en continu pour des mecs qui ont des objectifs de long terme, enfin des mecs, des femmes et des hommes, ou au contraire, quand on veut lutter contre la sarcopénie.
Est-ce qu'on pourrait juste revenir sur... tout à l'heure, tu disais que c'était un des compléments les plus étudiés du marché. On l'entend à toutes les sauces, dès qu'il y a quelqu'un qui parle de la créatine. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que il y a vraiment, c'est fiable, c'est sourcé? Il y a une méta-analyse dessus? Tu as parlé d'études, etc. Est-ce que tu as des choses à nous...
Alors, il y a des dizaines de méta-analyses. En fait... Après, ce qu'il faut faire, c'est replacer la hiérarchie des preuves scientifiques. Donc, bon, je passe les trucs sur les animaux, etc. Ça, on ne regarde même pas. On est bien plus avancé, bien entendu, sur la créatine. Ouais, mais t'as, en nutraceutique, t'as parfois des ingrédients qui sont mis en avant, alors que t'as que des études qui ont été réalisées sur des souris. Ça existe.
Mais heureusement qu'il y a des études sur les humains. Ouais. Quand tu rabâches à longueur de journée,
bien sûr.
Quand tout le monde te rabâche que ça a été étudié en long et en large et en travers et qu'il n'y a rien qui a été fait sur l'humain.
Exactement. Donc là, on est quand même, je dirais, sur l'un des compléments qui va... Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un grand consensus aujourd'hui sur la créatine. Et je pense... par exemple, il y a moins de consensus sur les oméga-3. Déjà, les oméga-3, ça balaie quand même beaucoup plus de bienfaits. Et sur certains bienfaits, il y a plus de débats. Là où sur la créatine, bon, bah, c'est vraiment la force, la puissance, le développement de la masse maigre. Et là, globalement, tout le monde est à peu près d'accord pour dire « ouais, ça fonctionne ». Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que le matériel scientifique dans le monde de la nutraceutique est toujours moins solide que dans le monde de la pharma, donc dans le monde des médicaments. Pourquoi? Parce que dans le monde de la pharmacie, les moyens mis en place, enfin, l'argent est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus encadré, mais à la fin, tu touches ta rente. Une fois que tu as l'autorisation de mise sur le marché de ton médicament, là, gling, c'est jackpot, quoi. Tu vois, c'est... Y en a pas. Dans le monde de la nutraceutique, tu n'as pas ça. Tu n'as pas l'État qui te dit, bah, tu as une rente pour la créatine à vie, machin, ça ne se passe pas comme ça. Donc, les investissements sont quand même moins importants et tu y vas de façon graduelle. Mais pour la créatine, on est extrêmement avancé. Quand on replace le contexte des preuves, de la hiérarchisation des preuves scientifiques. Donc, la première preuve, ça va être ce qu'on appelle l'étude clinique. Dans notre jargon, c'est le RCT, Randomized Controlled Trial, donc essai contrôlé randomisé. Ça, c'est bien, mais généralement, une étude clinique, ça coûte quand même cher, à peu près 100 000 euros quand même. Et après, ça peut monter jusqu'à 300 000 en fonction de ta cohorte, de la taille de ta cohorte, etc. Ensuite, on va passer sur les revues systématiques, sans méta-analyse. Là, tu vas regrouper plusieurs RCT, donc plusieurs études cliniques. Je vais dire RCT pour, ouais, parce que c'est le jargon. Plusieurs RCT pour essayer de tirer une conclusion. Et si les protocoles des RCT sont assez proches, alors tu peux passer sur une méta-analyse. Tu peux en conclure avec une méta-analyse. Après, il y a encore une preuve supplémentaire, c'est l'ombrelle, l'analyse d'ombrelle ou l'étude d'ombrelle. Là, tu vas faire une méta-analyse des méta-analyses. Voilà, ça commence à devenir très, très solide.
Okay. J'en parlais sur le podcast avec HZOD, Umbrella Review. Ouais.
Voilà. Ça, c'est le top. En plus, le mot est beau. Quoi.
Ouais, bref, c'est,
sympa. C'est presque mystique. Quoi, tu vois. Et après, tu as, d'après moi, quelque chose qui est encore supérieur, c'est une prise de position d'une revue à comité de lecture de premier ordre. Et en fait, sur la créatine, c'est ce qu'on a. Donc ensuite, quand tu regardes les deux types de travaux statistiques, donc tu as le RCT et la méta-analyse. Dans le RCT, il y a plusieurs éléments à regarder. D'abord, la taille de la cohorte. Ensuite, il y a le fait de savoir si c'est randomisé ou pas. Donc randomisé, ça veut dire que globalement, c'est un algorithme qui va distribuer les sujets entre les deux cohortes, c'est-à-dire celle qui va avoir le produit étudié, donc en l'occurrence créatine, et celle qui va avoir le placebo. Pourquoi on fait ça par un algorithme? Parce que si c'est un homme qui le fait, il peut y avoir un biais. Il peut se dire, bah, attends, je vais mettre les sportifs d'un côté, les pas sportifs de l'autre, ou alors, bah, tiens, je vais mettre les personnes âgées d'un côté, les personnes pas âgées de l'autre. Tu vois, il peut toujours y avoir des petits biais comme ça. Ensuite, il y a la notion de double aveugle. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe la cohorte à laquelle tu appartiens en tant que sujet, tu ne sais pas si tu prends la créatine ou si tu prends du sucre. Enfin, je pense qu'ils vont mettre à côté de la farine. Voilà. Et tu as un dernier élément, c'est les petits P. Alors, les petits P, à boire et à manger dessus. En fait, quand il y a marqué, enfin, quand vous avez les petits P, le petit P, c'est la probabilité. Bah, à la fin de ton RCT, tu as toujours en fait les petits P. C'est la probabilité. C'est le...
Ah, oui.
Et en fait, si tu veux, le petit P te dit... ton résultat, attends, c'est quoi déjà? C'est est-ce que ton résultat, quelle est la probabilité que ton résultat soit dû à la chance? Voilà, c'est okay. Ça. Donc, si par exemple, tu as un petit P égal à 5%, bah, c'est que tu as 5% de chance que le résultat que tu as obtenu, bah, tu as 5% de chance que la perf obtenue soit due à la chance et pas à ton produit. Okay. T'as compris?
Il faut que ce soit significativement efficace, voilà. Finalement.
Après, généralement, ce qu'on entend, c'est oui, il faut qu'on ait la cohorte la plus grande possible, donc le nombre de sujets le plus grand possible. Donc, on va dire une étude qui a 1000 sujets, c'est plus intéressant qu'une étude qui a 100 sujets. C'est vrai, mais en fait, quand tu regardes les petits p, tu peux nuancer. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile d'obtenir un p qui soit petit avec une très grosse cohorte qu'un p qui soit petit avec une petite cohorte. Donc si ton p est petit avec une petite cohorte, ça peut quand même être très intéressant. Okay. Okay.
Tu parles de la qualité des études.
Voilà. Donc ça, c'est pour les RCT. C'est le tunnel, là, les gars.
Ouais, pas de soucis, t'inquiète.
Et après, il faut regarder du côté des méta-analyses. Donc les méta-analyses, c'est les études de statistiques qui vont récupérer les RCT et qui vont les comparer en fait entre eux. Là, il faut regarder trois choses. La première, c'est ce qu'on appelle le graphique de forest plot. Donc, en fait, c'est pour regarder l'hétérogénéité des études. Si cette hétérogénéité est supérieure à 75%, la méta-analyse est caduque. En tout cas, 75%, c'est en nutraceutique. Okay. Donc ça, c'est le premier truc qu'il faut regarder. Ensuite, il y a un autre élément qu'il faut regarder, c'est parce que l'avantage des méta-analyses, c'est qu'elles vont grossir ta cohorte. Alors que sur ton RCT, tu avais 100 bonhommes. Un additionnant, si tu veux, 10 RCT, ça te fait 1000 bonhommes. Okay. Mais ce qui va être important, c'est de regarder si les 1000 bonhommes que tu as au début de ton protocole sont toujours là à la fin. Parce que dans une étude clinique, tu as toujours des mecs qui sortent de la cohorte en cours. Parce que, je ne sais pas, moi, imagine, tu as une femme. Alors, c'est rarement fait sur les femmes, justement, pour les problématiques hormonales. Mais imagine, tu as une femme qui tombe enceinte. On la sort.
Elle sort.
Tu vois ce que je veux dire ? Okay. Voilà. Imagine, tu as quelqu'un qui se casse une jambe, qui ne peut plus se rendre régulièrement, si tu veux, sur le point de rendez-vous pour faire ses prises de constante, etc. Bon, bah, il sort. Tu vois ce que je veux dire ?
Voilà.
Et ça peut avoir un biais. Donc, ça porte un nom en anglais. Je l'ai noté là. S'il est là. Voilà, c'est l'intention to treater. Okay. Donc, en fait, tu fais CTRL-F sur ta méta-analyse, tu rentres ce truc-là et tu regardes ce qu'il en sort. Et ça va être intéressant. Troisième chose qu'il faut regarder dans la méta-analyse, c'est le bruit. C'est-à-dire, globalement, est-ce que dans mes études, dans mes RCT réunis pour la méta-analyse, j'ai des sujets qui sont dans un endroit où on fait les études cliniques et ils sont engagés sur d'autres études cliniques et donc ils testent aussi d'autres intrants. Tu vois ce que je veux dire ? D'autres produits. Parce que typiquement, tu vois, il y a une étude qui est sortie sur le collagène et l'arthrose. Mais il y avait des mecs qui prenaient du paracétamol aussi dans les cohortes. Bah, en fait, est-ce que la baisse de la douleur est due au collagène ou est due au paracétamol ? Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, donc ça, c'est à regarder.
Parce que ça peut être des sujets qui sont payés pour faire l'étude et qui, du coup, qui font plusieurs études en même temps et
ça.
Qui ne le signalent pas.
C'est ça. Alors, ils le signalent. Tu peux le voir. Mais d'accord. Il faut le prendre en considération. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, ça, voilà, je vous donne un peu la tambouille.
Et alors, qu'est-ce qu'on en conclut, Edouard, de tout ça, de toutes ces études?
Alors, justement, ça, globalement, c'est vraiment, on a défini la hiérarchisation des preuves scientifiques et on a expliqué après à vos abonnés, globalement, en commençant un RCT et une méta-analyse, tu fais pour te dire, OK, c'est un travail de qualité ou c'est pas un travail de qualité. Vous avez remarqué une chose, c'est que je n'ai rien dit sur les biais de financement. Le mec qui vous dit, ah, mais de toute façon, c'est payé par l'industrie, il est au niveau zéro de la critique d'un travail scientifique. Il n'y a quasiment pas un travail scientifique, par exemple dans le monde des médicaments, qui est financé en dehors du privé. Enfin, 90% c'est financé par le privé. Mmh. Okay. Mais aujourd'hui, tu as des tierces parties, des revues à comité de lecture, des mecs qui vont te revoir les probabilités, qui sont complètement indépendants, qui ne savent même pas sur quoi porte l'étude, je veux dire, qui font qu'on arrive quand même à avoir aujourd'hui, de la sécurité à ce niveau-là, et même dans le monde nutraceutique. Alors, tu as quelques mots-clés aussi à rentrer pour t'assurer de ça. De toute façon, tous les conflits d'intérêts sont signalés dans les conclusions. Okay. Mais ce n'est pas parce qu'il y a conflit d'intérêts que le travail n'est pas de qualité. Et là, il faut aller regarder justement les tierces parties que je viens d'énoncer, qui te permettent en fait de dire, OK, c'est un travail de qualité. Et sur la créatine, il n'y a pas de souci. Donc après, bon, on ne va pas citer toutes les méta-analyses, il y en a des dizaines et des centaines. Moi je voulais sélectionner trois choses pour moi. Ce qui fait consensus aujourd'hui, c'est la position de l'International Society of Sport Nutrition. C'est le magazine number one, la communauté scientifique number one sur la nutrition du sport, qui a donné un avis sur la créatine.
On vous mettra d'ailleurs en description de la vidéo les études, voilà, d'Edouard, hein, si ça peut vous intéresser.
Et elle conclut, donc ça date de 2017 quand même. Okay. D'ailleurs, c'est intéressant parce que jusqu'à il y a peu, la créatine était quand même plutôt dans le monde de la muscu. Et là, depuis un an, on la voit sortir du monde de la muscu. Alors, je pense que c'est aussi l'objet de notre,
ouais, bien sûr,
de notre échange aujourd'hui. Et donc, eux, en fait, ils concluent beaucoup de choses. Premièrement, ils disent que c'est le complément le plus efficace pour la performance de la force, de la puissance, et pour augmenter la masse maigre. Il conclut aussi à l'innocuité du produit. C'est un point important parce que pendant longtemps, on s'était dit créatine, créatinine, rein. Voilà, il y avait des problèmes là-dessus. Il y avait les cheveux aussi, on peut en parler. Il y a un RCT qui était sorti en fait en Afrique du Sud sur une équipe de rugby en 2009. Le protocole n'était pas très bien foutu. Et il y avait une augmentation de la dihydrotestostérone je crois, de 50% sur la cohorte qui prenait de la créatine. Donc, on en a conclu que ça faisait perdre les cheveux, machin, compagnie. Et il y a 9 RCT par la suite qui ont été menés sur des protocoles spécifiques sur l'étude de l'augmentation de la testostérone, au sens large, et qui n'a jamais rien trouvé. Donc, a priori, c'est total fake.
Oui, ou utilisation de produits exogènes ou de contamination aussi du complément alimentaire.
Là, tu vois, typiquement, il y avait sans doute du bruit. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas ce que prenaient ces joueurs de rugby à côté. On sait que pour entretenir des masses musculaires aussi massives, bon, moi, je suis un grand fan de rugby, mais je n'ai jamais réussi à monter, si tu veux.
Il y a eu quelques scandales avec l'équipe d'Afrique du Sud. Il y avait eu
c'est ça.
On laissera aux auditeurs de se faire leur petite interprétation.
Donc, pour moi, la référence, pour revenir à l'ISSN, c'est la revue en fait, d'Antonio et Al, qui date de 2017, et qui a été supervisée par Alan Aragon, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le ponte de la créatine. Okay. Donc ça, pour moi, c'est la position ultime. C'est-à-dire que quand tu as ça, tu dis, OK, c'est bon, ça fonctionne. C'est à partir de là que les Djokovic en ont pris, voilà, que ça a commencé vraiment à se généraliser.
Il y a eu une quantité par rapport à ces études-là. Il y a eu des protocoles, justement. C'est toujours pareil, le
3-5 grammes. Voire plus. Alors, on est sur la créatine monohydrate. Donc, créatine monohydrate, il y a un peu d'eau qui colle à la créatine. Donc, en fait, c'est le consensus scientifique, c'est 3,3 ou 3,4 grammes de créatine monohydrate pour avoir 3 grammes de créatine. Voilà. Okay. Le consensus, c'est ça.
Et après, c'est un élément.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et hommes et femmes, il y a une variante ou pas
Non, tu peux. Non. Mais les femmes sont concernées. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que, étant donné que la prise de masse massive et le dopage dans le monde du enfin, on va dire que le bodybuilding est un sport quand même assez masculin, enfin masculin, on va dire que c'est quand même le muscle, tu vois, la testo, etc. C'est un produit qui a été longtemps attaché au monde masculin. Mais c'est une hérésie. En fait, les femmes en ont besoin autant que les hommes pour les mêmes buts, en fait.
Voilà. Oui, pour le métabolisme, puis parce qu'elles font du fitness, elles font de l'aerox.
Exactement.
Et puis pour tout, l'athlée aussi, pour la course à pied, pour faire c'est le fractionné. Ça.
Et puis elles sont touchées par la sarcopénie à partir de 45-50 ans, comme les hommes aussi. Quoi. Mmh. Voilà. Ensuite, je vous ai sélectionné une méta-analyse qui est très bien. Alors, je ne les ai pas toutes revues dans le détail, parce que là, les amis, ça m'aurait demandé une année, je pense.
Non, mais si on en a deux, c'est magnifique.
Mais oui, celle-ci, elle est très bien. Elle est bien structurée. Et en fait, c'est un mec qui a réuni tous les RCT sur le bench press, sur le développé couché. C'est pas mal. Okay.
C'est pour Pyro, ça.
Voilà.
Bien le bench.
Ouais.
Et il en a conclu que globalement, la force de la cohorte avec la créatine était 5,3% supérieure à la force des cohortes qui n'avaient pas la créatine. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est statistiquement significatif et que les petits P dont on parlait tout à l'heure sont top niveau. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un travail statistique de grande qualité. C'est très bien fait. Quand tu regardes la méta-analyse, le forest plot, là, il est très homogène. Donc c'est vraiment une étude, pour moi, c'est une étude, enfin, c'est un travail de grande qualité et qui apporte une preuve concrète.
Tu peux rappeler le nom de...
Ouais, on me les mettra de façon en commentaire ou en description. Il s'appelle Lenners, le mec. Alors, je ne sais pas si je le prononce très bien. Lenners et Al, elle date de 2017, de 2017 également. Quoi. Voilà. Et après, une revue d'Ombrelle.
Ah, ultime.
Voilà, qui est ultime. Alors, la revue d'Ombrelle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de conclure sur plusieurs éléments. Donc, en réalité, ça va être intéressant parce que ça t'augmente, bien entendu, le nombre de sujets. Mais en fonction de ce que tu étudies, le nombre de sujets dans ton Ombrelle va varier. Ce que je veux dire. Donc, Lenners, que je citais tout à l'heure sur sa méta-analyse, c'est un peu plus de 1000 participants. je n'ai plus le nombre en tête exactement, mais je crois que c'est 1000, 1013, quoi, un truc comme ça, ou 1113.
C'est beau.
C'est commence à être costaud.
C'est pas mal.
Et là, même si tu as de la déperdition, comme on parlait tout à l'heure, tu peux quand même arriver à des résultats qui sont concluants. Et donc ensuite, la revue d'Ombrelle, c'est jusqu'à 3000 sujets. Ça commence à taper quand même assez large, quoi. Le mec s'appelle, alors je sais pas si c'est en français, ça se dit Brasier. Je pense pas qu'il s'appelle Brasier, je pense que ça doit être Brazier. Ça date de 2022. Et là, il conclut, globalement, on retrouve un petit peu les mêmes effets que ce qu'on avait sur le bench. On retrouve aussi des informations sur l'innocuité pour les reins, etc. Machin. Bref, c'est vraiment très intéressant, quoi. C'est concentré sur, vous voyez à chaque fois, la force.
Et sur le cerveau, je voulais rebondir.
Justement,
est-ce qu'il y a des sources
Sur le cerveau, je m'avance moins. On est encore au début. Il y a une méta-analyse qui est sortie en 2022, qu'une seule. Alors que sur la force, il y en a des dizaines. Donc, c'est quand même un peu plus léger. Quand tu regardes le forest plot, donc le graphique d'hétérogénéité des RCT qui sont réunis dans la méta-analyse, pour donc c'est la mémoire des plus de 60 ans, on n'est pas au niveau de ce qu'on a dans certaines très belles méta-analyses qui concernent la force, tu vois ce que je veux dire, la puissance, etc. Mais toutefois, je pense qu'il y a une vraie matière à recherche dans cette direction-là. Et donc voilà, moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est que finalement, dans la recherche, il y a une gradation. C'est-à-dire qu'au début, vous allez avoir des RCT très hétérogènes, de plus ou moins bonne qualité. Les RCT vont être de plus en plus quali. On va commencer aussi à avoir des premières méta-analyses, des méta-analyses avec des forest plots donc, qui sont assez hétérogènes, puis de plus en plus homogènes. Et puis, on va arriver ensuite sur des ombrelles, etc. Et des prises de position ensuite sur des revues à comité de lecture. Tu vois ce que je veux dire ?
Ok, ouais, bien sûr.
C'est comme ça que ça se fait.
Je ne sais pas si tu veux rebondir par rapport aux études, le Pyro. Je pense qu'on a été assez complet sur ce sujet-là.
Oui, très bien.
J'aurais aimé juste qu'on fasse quand même, on l'a bien compris, la créatine, il y a quand même aussi beaucoup de mythes par rapport à elle. Souvent, on l'exagère presque un petit peu. Il y en a beaucoup qui disent aussi que ça améliore la récupération. Là, on l'a compris que la créatine, il fallait quand même pousser. En fait, ce qui va jouer, ça va être les deux reps en plus, les deux séries de fractionnés en plus. C'est vraiment là où on va avoir un intérêt. Faut pas que les gens pensent je vais prendre de la créatine et je vais prendre du muscle. Si derrière, il n'y a pas un travail de résistance ou de puissance, c'est complètement inutile.
Exactement, c'est ça.
Juste le préciser pour les auditeurs, qu'on est tous d'accord. Hein.
Tu as tout dit là-dessus. Il y a quand même un côté aussi prise de masse, parce que la créatine a besoin d'eau. Et donc, en fait, elle va charger ton muscle en eau. Mais attention, c'est vraiment de l'eau qui va être dans le muscle et pas de l'eau sous-cutanée. Donc, ça va venir quand même galber le muscle. C'est plutôt quelque chose de beau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un muscle bien hydraté, c'est un muscle qui fonctionne mieux que lorsqu'il n'est pas hydraté. Là, j'enfonce des portes ouvertes, mais...
Ouais, bien sûr.
Voilà, et après, pour les mythes, tu l'as dit. Moi, encore une fois, je recommande vraiment pour tout ce qui va être force, puissance, intensité. Comme tu le dis, tu vas gagner 2 reps de plus. Sur un 400 mètres, tu vas gagner, si tu veux... tes 50 derniers mètres, tu vas pouvoir les faire avec la même intensité sans faiblir. Voilà. Pour tout ce qui va être cerveau, je pense qu'à partir de 60 ans, si on a les moyens, ça peut être intéressant, surtout si on lutte contre la sarcopénie, etc. Mais sorti de ça, par exemple, un étudiant, parce qu'il y a aussi des RCT qui ont été menés sur les étudiants pour mesurer leur capacité de concentration, résistance aussi à un sommeil faible, etc. J'aurais tendance à dire, ça coûte quand même, enfin, ça a un prix quand même, la créatine. Généralement, quand on est étudiant, c'est pas le moment où on est le plus riche de sa vie. C'est pas le produit que je recommanderais en l'état et au regard de la science. Quoi. Voilà.
Et ton avis sur des sports un peu plus, là, on a compris que c'était quand même plutôt puissance-force, mais sur des sports plus endurance, des gens qui juste courent, font de la basse intensité, il y en a beaucoup qui ne sont pas dans une recherche... de faire du fractionné tout le temps, mais juste, voilà, je vais courir 3 fois par semaine, mon petit 10 km. Est-ce qu'il y aura un sens pour eux ?
Non, pour moi, non.
Non, aucun.
Okay. Sauf si vraiment le mec, à un moment, il a une séance de fractionné ou une séance de côte, aussi, il veut se taper un délire et se faire 3 sprints de 100 mètres au milieu de sa séance d'endurance fondamentale. Mais si c'est vraiment un profil qui va tranquillou, moi, je fais mon endurance fondamentale pour entretenir un peu, si tu veux, ma VO2 max, tous ces trucs-là, non, ce n'est pas le truc à privilégier, très clair.
Ça va vraiment être un outil pour aider sur que ce soit l'anabolisme, puisque forcément, le volume et l'intensité de vos entraînements va être une, enfin, ça va être deux clés pour pouvoir stimuler cet anabolisme. Et puis voilà.
Ouais.
Donc,
si on devait
c'est un
résumer,
outil.
Et juste, excuse-moi, Edouard, mais il y a quand même cette on en a parlé, t'en as parlé un petit peu sur la récupération, ce rapport avec les glucides. Est-ce que tu pourrais le réexpliquer et dire aux gens est-ce que ça fonctionne ou pas pour la récup? Parce que c'est vraiment ancré quand même, je trouve, la créatine améliore la récupération.
En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des preuves scientifiques qui démontrent que quand on prend sa créatine juste après un entraînement intensif hein, dans les études, ça accélère la recharge glucidique. Voilà. Après, est-ce qu'il faut prendre de la créatine juste pour recharger sa recharge glucidique après l'entraînement? Je ne suis pas certain. Bon, mais voilà, si on la prend parce qu'on en a besoin à côté de ça, et qu'on cherche un moment vraiment optimal pour la prendre, ça peut être intéressant de la mettre juste après l'entraînement. Voilà.
Ok.
Mais est-ce qu'on n'est pas sur de l'hyper-optimisation? Prenez un
Si.
peu plus de temps pour dormir une demi-heure de plus.
Ouais, t'as ça. En fait, c'est pour ça que je voulais dire.
Faut
Pour moi,
hiérarchiser un
la
peu.
créatine, c'est un, la performance sportive. Et deux, la longévité à partir de 45 ans quand tu veux lutter contre la sarcopénie. Pour le moment, c'est ça. Le cerveau, le machin, c'est
Trop
encore
tôt.
assez neuf. C'est encore assez neuf. Je te le disais, si tu as les moyens, plus de 60 ans, etc., que tu es déjà dans une lutte contre la sarcopénie, de toute façon, ça te fera du bien au cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de dire, tout le monde n'a pas forcément besoin de créatine. Je pense que c'est vraiment les sportifs qui s'inscrivent dans des logiques de performance, avec une pratique régulière, des entraînements qui sont structurés, où il y a de l'intensité ou de la force,
Et qui sont optimisés déjà.
et qui cherchent l'optimisation, bien entendu. Mais bon, moi, très, très clairement, tu vois, voilà, je fais 4 à 5 entraînements par semaine. D'ailleurs, très proche de ce que vous avez présenté à l'hypersanté, les gars. Donc, j'étais
Ouais,
content. Je me
super.
disais,
Eh
putain,
ben,
je coche
super.
les cases, je suis content. Un peu plus force qu'endurance en ce moment. Qu'est-ce que je voulais dire? Et tu vois, moi, je prends pas de. Actuellement, je ne prends pas de créatine.
Ok.
Je prends pas de créatine.
C'est pas l'objectif, tout simplement. Il
Parce que
faut.
j'ai pas d'objectif, parce que je me dis, bon, j'ai déjà 15 000 compléments à prendre à côté. Bon, j'en éprouve pas le besoin. Peut-être que. Après, là, j'étais sur une reprise aussi de tout ce qui était un peu exercice de résistance. Donc, vous savez ce que c'est? C'est une courbe logarithmique, la progression. Quand je commencerai à atteindre un petit palier et tout, je vais aller peut-être que je prends de la créatine pour aller chercher 2-3 reps de plus. Vous voyez ce que je veux
Oui,
dire?
bien
Et là,
sûr.
j'étais dans la phase un peu de décrassage, quoi.
C'est parfait. Mais on va finir peut-être par le pratique vraiment. Quelle créatine choisir? Quelle forme? Est-ce qu'il y a justement des labels à respecter, à surveiller? Peut-être recommencer d'abord par ça et après on verra vraiment si on peut optimiser la prise de la créatine dans un second temps.
Alors, il y a un label qui domine, c'est Créapure, pardon, ou Créa Vitalis, qui est en fait la même entreprise. Mais étant donné que Créapure était très attaché au monde de la muscu, ils ont créé un second trademark destiné plutôt à la longévité. Donc, dès que vous avez Créapure ou Créa Vitalis, là, c'est ultra clean. C'est fabriqué en Allemagne. Les intrants, en fait, pour la production sont assez simples. Il y a des intrants organiques et des dérivés d'acides aminés. On met tout ça dans des gros containers d'eau où la température et le pH sont maîtrisés. Et après, ils ont leur secret de fabrication. Et il y a une cristallisation, en fait, il y a des petits cristaux de créatine qui vont se créer. Et donc, c'est de la créatine monohydrate. Donc, il y a une molécule d'eau qui est capturée dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étape qui est très importante aussi après, c'est de laver. De filtrer pour sortir les métabolites. Il y a trois métabolites, je ne les ai pas tous en tête, j'en connais deux. Donc il y a la créatinine qu'on connaît tous. Donc, bien entendu, il faut éviter d'avoir de la créatinine dans sa créatine, parce que ça veut dire que tu apportes des déchets aussi, aucun intérêt. Et il y a un métabolite qui s'appelle la DHT, qui est différent de la DHT dihydrotestostérone dont on parlait tout à l'heure. Ce n'est pas ça. J'ai l'acronyme en tête, mais je n'ai pas le nom scientifique.
Oui,
Excusez, on le mettra en commentaire si
bien
ça
sûr.
vous
Oui, bien sûr.
intéresse. Et ça, par contre, c'est dangereux. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y en a pas. Donc, l'avantage, c'est qu'avec Créapure et Créavitalis, là, vous avez l'assurance d'avoir 99,99999% tu vois,
Ouais, bien sûr.
de créatine monohydrate.
C'est
Comme
la
du Valium.
pureté.
Ouais.
C'est la pureté. Il peut y avoir d'autres créatines monohydrates de qualité qui ne sont pas trademarquées, Créapure ou Créavitalis. Mais dans ces cas-là, demandez les analyses qualité. Avec l'analyse de la teneur en comment s'appelle des métabolites que je viens de citer, c'est important.
Et puis acheter la créatine.
Voilà. Ça peut être intéressant parce qu'on ne va pas se mentir, la créa pure reste plus chère que les créatines monohydrates non trademarquées. Donc quelqu'un qui se dit, putain, j'ai vraiment besoin de créatine, mais la créatine monohydrate, c'est 1,5 fois le prix. Enfin, la créa pure, pardon, c'est 1,5 fois de prix qu'une monohydrate classique. Bah, dans ces cas-là, copain, va jusqu'au bout de ta démarche. Tu prends 2-3 marques qui font de la monohydrate non trademarquée créa pure et tu leur demandes les analyses. Voilà.
Ils donnent, on a accès
facilement. Moi, ce que je pense, c'est que les trois quarts des marques, elles te donneront rien, quoi. Tu vois, mais okay. C'est pour ça qu'on a fait de la créa pure.
Okay.
Mais tu peux avoir une marque. On n'est pas les seuls chevaliers blancs entre guillemets de l'industrie. Hein. Tu peux avoir des marques qui font mieux leur taf. Hein,
bien sûr.
Mais généralement, quand tu vas chercher une créatine monohydrate au fin fond de la Chine pour aller chercher du prix, tu veux vendre par le prix parce que tu es moins cher que les autres, plus que parce que tu es quali que les autres. Donc, on ne va pas se mentir, c'est généralement plutôt les marques opportunistes qui vont proposer une monohydrate non trademarquée que les marques vertueuses. Mais encore une fois, tout est dans la nature. On peut trouver une marque vertueuse qui fait une créatine monohydrate non trademarquée et qui a fait les analyses. Ça doit exister, quoi.
Voilà. Bon, il nous faut le label. C'est pas possible de faire autrement que de prendre labellisé créa pure ou Vitalis, comme tu disais.
L'avantage du label, c'est que tu n'as pas demandé à la marque les analyses, quoi. Mmh. Voilà. Et puis tu n'as pas à te casser la tête à retenir les métabolites, machin, faire un travail quasiment d'auditeur scientifique. Voilà.
Et il n'y a pas d'autre forme de créatine qu'un monohydrate qui domine le marché?
En fait, tu as 99,9% des études qui sont faites sur la monohydrate. On sait qu'elle est bien tolérée, on sait qu'elle fonctionne bien, elle est absorbable, elle est biodisponible, c'est-à-dire qu'elle s'absorbe, elle passe de l'intestin jusque dans le plasma sanguin, mais surtout, elle va jusque sur son lieu d'action, dans le muscle. Et tu prends, encore une fois, je reviens à lui, hein, Alain Aragon, il te dit, c'est la monohydrate, les gars. La malate, la machin, ça, on oublie. Voilà. Okay. En tout cas, pour le moment, le matériel scientifique sur ces créatines alternatives est encore très faible. Voilà. Après, tu as un mec qui va te dire, oui, mais le malate, c'est bien aussi pour l'ATP. Moi, ce que je pense, c'est que le malate n'intervient pas dans la même filière que la créatine, ce qui intervient dans le cycle de Krebs. Donc, on va plutôt être sur l'aérobie, tu vois ce que enfin, c'est pas bon, après, on rentre dans le détail.
Oui, bien sûr, mais il n'y a aucun souci. Tu avais une question encore par rapport à tout non. ça, Pierre ?
Je pense que la synthèse, ça peut être pas mal.
Ouais.
3 à 5 grammes par jour, phase de charge de 20 à 30 jours de charge ouais. pour avoir les effets maximaux de l'utilisation de la créatine. Il ne faut pas s'attendre à des monoprises où il faut être régulier, récurrent. Et après, un effet sur les efforts de haute intensité pour grappiller quelques reps et pour augmenter votre volume intra-entraînement. Sera le moteur de l'hypertrophie et d'anabolisme.
Et est-ce qu'il peut y avoir des synergies négatives, justement je ne sais pas, une carence en quelque chose qui pourrait faire qu'on absorbe moins la créatine ou inversement, un autre facteur qui influencerait indirectement sur la créatine?
C'est possible, mais je n'ai rien vu dans ce que j'ai regardé.
Moi, je te pose la question, j'imagine, c'est souvent on dit le café, le magnésium, où il peut y avoir des perditions. Donc, je voulais juste savoir si tu avais en tête quelque chose, mais s'il n'y en a pas...
Nous on n'a rien vu. Je dis nous parce que j'ai une équipe aussi que je salue d'ailleurs, au passage.
Bien sûr.
Qui m'aide à préparer ces podcasts.
Ils sont là.
Ouais.
On ne les voit pas, mais beaucoup à vous.
Ils sont avec le casque.
Et donc, juste pour conclure aussi, cet aspect sécurité, on l'a déjà parlé, mais c'est bien quand même de finir par ça. Parce qu'il y a aussi une image négative, on l'a dit, par rapport au rein notamment, qui est un peu encore présente. Donc, il n'y a aucun souci, on l'a vu notamment dans les études.
Exactement, c'est ça.
Sauf si tu as de l'insuffisance rénale, où là, forcément, oui, là, accompagné par un médecin.
Les femmes enceintes, l'enfant, on déconseille quand même, ou il n'y a pas de problème?
Alors, l'enfant, on n'ira pas. Femme enceinte non plus. Et d'ailleurs, c'est cohérent parce que, a priori, une femme enceinte va pas forcément être sur une optique de performance. Et elle n'est pas non plus touchée par la sarcopénie, tu l'as compris. A priori, elle a plutôt sous les 45 ans. Quoi. Voilà.
Bah, nickel, merci.
Ouais, tu es plus sur des compléments de grossesse ou préparer l'allaitement.
Et comme on l'a dit, c'est pas la performance en fait. On a dit que c'était vraiment de la performance. Et quand on est enceinte, on va pas chercher à améliorer ses perfs. Enfin, c'est un peu antinomique.
C'est exactement ça. Pour peut-être compléter ta synthèse. Dire que pour moi, ça touche deux publics. Le public de la performance sportive au sens large, c'est-à-dire à la fois sport de force, mais aussi, on l'a vu, sport d'endurance quand même.
Parce pour que, chercher le,
voilà,
le coup de rein.
Exactement. Et longévité, plus de 45 ans, sarcopénie. Pour moi, c'est vraiment les deux populations qui sont concernées directement par la créatine.
Ben, merci beaucoup, Edouard. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On sait peut-être que cet épisode va être critiqué par certains en disant oui, vous nous vendez des compléments. Je pense que vous l'avez bien compris qu'il y a des cas très spécifiques et Edouard a dit notamment non à pas mal de cas. Donc l'objectif, voilà, c'est ça, c'est vraiment que vous compreniez la créatine, essayer de vous apporter des informations sourcées. J'espère que ça a été le cas. Dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé cet épisode. N'hésitez pas à nous critiquer si c'est le cas et si c'est positif aussi à le dire. T'as un mot de la fin, Edouard ?
Bah non, bah merci de m'avoir permis de m'exprimer sur le sujet de la créatine, parce que pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'avec la casquette de marchand, tu arrives toujours avec un petit biais, etc. Et mon objectif dans ce type de podcast, c'est de montrer quand même qu'on maîtrise un minimum ce qu'on fait, qu'on est avant tout des passionnés, qu'on n'est pas des personnes qui poussons à la consommation de façon absolue. J'espère l'avoir démontré dans ce podcast. Et donc, je vous remercie, les gars.
Bah, avec grand plaisir. Et à bientôt pour un nouvel épisode.
Ouais, à très vite.
Ciao, ciao.
Ciao. À plus.